Le récit du consul. Je me souviens de Syrie. Je gravis la colline escarpée jusqu'à la tombe de Syrie, le jour même où les îles commencent à retourner vers les mers peu profondes de l'archipel équatorial. Il fait une journée parfaite que je déteste pour cette raison même. Le ciel est aussi serein que dans les récits qui se déroulent sur les océans de l'ancienne Terre. Les hauts fonds sont moirés de teintes outre-mer, et une brise tiède venue de l'océan fait ondoyer les capillaires sur le versant où je marche. J'aurais préféré un jour pareil des nuages bas et de la grisaille. J'aurais préféré de la brume ou un brouillard bien enveloppant, le genre de brouillard qui fait dégouliner les mâts dans le port du site numéro 1 et tire de son sommeil la corne de brume du phare. J'aurais préféré le grand vent de mer qui souffle du ventre froid des océans du sud, chassant devant lui les îles mobiles et leurs troupeaux de dauphins jusqu'à ce qu'ils trouvent refuge sous le vent de nos atolls ou de quelques pics rocheux. N'importe quoi, tôt que cette chaude journée de printemps, où le soleil suit sa course dans un ciel si bleu qu'il me donne envie de me mettre à courir, de faire de grands bonds et de me rouler dans l'herbe tendre comme nous l'avons fait naguère, Syrie et moi, à cet endroit précis. Oui, c'était exactement à cet endroit. Je m'arrête pour regarder autour de moi. Les capillaires se couchent et ondulent comme la fourrure d'une énorme bête, tandis que la brise salée souffle du sud. Je mets ma main en visière sur mon front pour scruter l'horizon, où je ne perçois pas le moindre mouvement. Au-delà des récifs volcaniques, la mer commence à s'agiter et la houle se soulève nerveusement en mouton. « Siri !» J'ai murmuré son nom sans le vouloir. 100 mètres plus loin, sur la pente, la foule s'arrête pour me regarder et retient sa respiration collective. La procession s'étend sur plus d'un kilomètre, jusqu'aux premières maisons blanches de la cité. J'aperçois au premier rang le crâne grisonnant et dégarni de mon plus jeune fils. Il porte la robe bleue et or de l'hégémonie. Je sais que je devrais l'attendre pour marcher à ses côtés, mais il serait incapable, comme tous les autres membres âgés du conseil, de suivre le rythme de mes jeunes jambes aguerries par l'entraînement et la vie à bord du vaisseau. La bienséance exigerait normalement que je reste à ses côtés, avec ma petite fille Lyra et mon petit-fils âgé de 9 ans. Mais au diable la bienséance. Au diable tout le monde. Je tourne les talons et continue d'escalader la colline escarpée. Ma chemise de coton commence à être trempée de sueur. J'atteins la crête et j'aperçois la sépulture. Le tombeau de Syrie. Je me fiche sur place. Le vent me glace malgré la chaleur du soleil qui jette des éclats sur la pierre blanche immaculée du mausolée silencieux. L'herbe est haute autour de l'entrée scellée de la crypte. Des alignements d'oriflammes de fête aux couleurs passées, sur leur hampe d'ébène, bordent l'étroite allée de gravier. En hésitant, je fais le tour du monument et je m'approche du bord de la falaise, quelques mètres plus loin. Les capillaires ont été piétinés par d'irrévérencieux pique-niqueurs aux endroits où ils ont étalé leur couverture. Il y a plusieurs foyers délimités par des galets à la rondeur et à la blancheur parfaite, prélevés à cet effet sur les bordures de l'allée. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je connais par cœur le panorama qui s'étend plus bas. La grande courbe de la rade, avec sa digue naturelle, les bâtiments blancs et bas du site numéro 1, les coques et les mâts multicolores des catamarans qui dansent autour de leurs amarres. Près de la plage de galets, de l'autre côté de la maison commune, une jeune femme en jupe blanche s'avance en direction de l'eau. L'espace d'une seconde, je m'imagine que c'est Syrie, et mon cœur bat violemment dans ma poitrine. Je vais presque agiter les bras vers elle, mais elle ne se tourne même pas. Je la regarde en silence faire demi-tour et s'éloigner pour se perdre dans l'ombre d'un vieux hangar à bateau. Plus haut que moi, à quelques distances de la falaise, un pervier aux larges ailes décrit des cercles au-dessus du lagon sur des thermiques ascendants et scrute les bancs mouvants de varech bleus grâce à sa vision infrarouge, à la recherche de phoques harpistes ou de torpes. La nature est stupide, me dis-je en m'asseyant dans l'herbe tendre. La nature se trompe d'un bout à l'autre en préparant le cadre de cette journée particulière où elle fait figurer un oiseau de proie alors qu'il n'y a plus rien de vivant depuis longtemps dans les eaux polluées de la rade. Je me souviens d'un autre pervier, la première nuit où Siri et moi avons grimpé sur cette colline. La lune jetait des reflets sur ses ailes, et son étrange cri envoûtant faisait écho sur la falaise, déchirant les ténèbres que perçaient les halos de quelques lampadaires du village en contrebas. Siri avait alors 16 ans, non, Même pas. Et le clair de lune qui effleurait les ailes du rapace faisait aussi briller sa peau nue d'un éclat laiteux, projetant les ombres douces sous les cercles mats de ses seins. Nous levâmes la tête ensemble d'un air coupable lorsque le cri de l'oiseau troua la nuit. Et Siri murmura « C'est le rossignol et non l'alouette qui perça le creux apeuré de ton oreille. « Hein ? » demandai-je. Siri avait presque 16 ans, j'en avais 19. Mais elle savait les rythmes lents des livres et les cadences du théâtre des étoiles. Moi, je ne connaissais que les étoiles. « Détends-toi, mon beau navigant, » me dit-elle en m'attirant contre elle. « Ce n'est qu'un vieux pervier en chasse, rien qu'un stupide oiseau. Reviens ici, mon navigant, tout près de moi, Mérine. » Le Los Angeles a choisi ce moment pour s'élever au-dessus de l'horizon et pour s'éloigner vers l'ouest, telle une escarboucle emportée par le vent, sur le fond pour moi inhabituel des constellations d'Alliance Maui, le monde de Siri. Étendu auprès d'elle, je lui décris le fonctionnement du grand vaisseau de spin à propulsion Hawking qui capte la lumière du soleil au-dessus du rideau de nuit qui nous entoure. Tout en parlant, je laisse glisser mes mains sur la peau douce de ses hanches, toutes de velours électrique. Sa respiration se fait plus rapide au creux de mon épaule. J'approche mon visage de son cou, de son odeur, du parfum subtil de ses cheveux défaits. Siri. Cette fois-ci, personne ne m'empêche de murmurer son nom. Au-dessous de moi, plus bas que la crête de la colline et l'ombre du tombeau blanc, la foule s'impatiente. Elle attend que j'ouvre le tombeau, que j'entre et que je me recueille dans le silence vide et glacé qui a remplacé la chaude présence de Siri. Ils veulent que je lui fasse un dernier adieu afin qu'ils puissent procéder à leur rite et à leur cérémonie avant d'ouvrir les portes d'Istrance pour retourner au plus vite dans leur être et dans l'hégémonie qui les attend. Au diable leur cérémonie. Au diable l'hégémonie. J'arrache un pétiole au capillaire touffu qui se trouve à côté de moi, je le porte à mes lèvres et je scrute l'horizon à la recherche du premier signe de migration des îles. Les ombres se profilent dans la lumière du matin. Il est très tôt. Je vais rester ici encore un moment. Je veux me rappeler. Je veux me rappeler Siri. Siri était pour moi comme un oiseau, je pense, la première fois que je l'ai vue. Elle portait une sorte de masque fait de plumes aux couleurs éclatantes. Quand elle l'a ôté pour se joindre au quadrille au flambeau, la lumière de la torche a éclairé les mèches auburn de sa chevelure flamboyante. Elle avait les joues rouges d'excitation, et je distinguais, malgré la distance et la foule qui nous séparaient, le vert étonnant de ses yeux qui contrastait avec la chaleur d'été de son visage et de sa chevelure. C'était pendant la nuit festive, naturellement, et les flambeaux dansaient et jetaient des pluies d'étincelles dans la brise piquante venue du large. Le son des flûtes jouant sur la digue en l'honneur des îles mouvantes était presque noyé par le bruit du ressac et les claquements des oriflammes. Siri n'avait pas 16 ans, mais sa beauté brillait plus que n'importe quel flambeau planté autour de la place remplie de monde. Je me frayais un chemin à travers la foule pour me rapprocher d'elle. Cela se passait il y a 5 ans pour moi. Pour nous deux, il y a plus de 65 ans. Mais il me semble que c'était hier. Ça ne va pas du tout. Par où commencer?
Qu'est-ce que tu dirais d'aller tirer un petit coup, gamin?
Maeko Sho, qui venait de parler, était un homme trapu, au visage poupin, caricature vivante de Bouddha. Et c'était un dieu pour moi. Nous étions tous des dieux, en fait, dotés d'une longue vie sinon immortelle, bien payés sinon tout à fait divins. L'hégémonie nous avait sélectionnés pour faire partie de l'équipage de l'un de ces précieux vaisseaux de spin à saut quantique. Aussi, comment aurions-nous pu être moins que des dieux? Seulement Mike, le brillant, le changeant, l'irrévérencieux Mike Osho était un peu plus vieux et un peu plus haut dans le panthéon des navigants que le très jeune Mérine Aspic. Alors là, probabilité zéro, lui répondis-je. Nous étions en train de nous faire un brin de toilette après avoir bossé 12 heures durant dans l'équipe du génie affecté à la construction de la porte d'Istrance. Expédier les techniciens au point de singularité où ils étaient affectés, à quelques 143 000 km d'Alliance Maui, était pour nous quelque chose de bien moins glorieux que le décalage de 4 mois par rapport à l'espace hégémonien. Pendant la section C+ du voyage, nous étions des maîtres spécialistes. 49 experts stellaires aiguillant 200 passagers guère rassurés. Mais maintenant, les passagers avaient leur combinaison autonome, et nous, les navigants, nous en étions réduits au rôle glorieux de camionneurs, tandis que les équipes du génie mettaient en place la lourde sphère de confinement de la singularité. « Probabilité zéro », répétais-je, à moins que les rampants n'aient rajouté un bordel à cette île de quarantaine qu'ils nous ont louée.
« Ils n'ont rien fait du tout », grogna Mike.
Nous avions bientôt droit, lui et moi, à nos 3 jours de repos et de récupération au sol, mais nous savions, d'après ce que nous avait dit le maître navigant Singh, et d'après les protestations des autres navigants, que cette permission à terre se passerait en fait sur une île de 4 km sur 7, administrée par l'hégémonie. Et ce n'était même pas l'une des îles mobiles dont nous avions entendu parler. C'était un simple piton volcanique près de l'équateur. Une fois là, nous aurions sous nos pieds une vraie gravité, nous respirerions de l'air non filtré et nous pourrions probablement nous procurer une nourriture non synthétique. Mais les seuls rapports que nous aurions avec les habitants d'Alliance Maui se limiteraient à l'achat de quelques produits d'artisanat local à la boutique Hortax. Et encore, ils nous seraient vendus par des commerçants de l'hégémonie. C'était pour cela que beaucoup de navigants préféraient passer leur permission à bord du Los Angeles.
Où est-ce que tu voudrais tirer un petit coup, Mike ? Les mondes coloniaux sont inaccessibles jusqu'à ce que la porte d'Istrans commence à fonctionner. Dans 60 ans à peu près en temps local.
À moins que tu ne veuilles parler de la vieille Meg dans le système de bord.
Fais-moi confiance, gamin. Il suffit de vouloir et on trouve toujours un moyen.
Je lui ai fait confiance. Nous n'étions que 5 dans le vaisseau de descente. C'était toujours pour moi une aventure que de descendre d'une orbite haute dans l'atmosphère d'un vrai monde, particulièrement d'un monde qui ressemblait autant qu'Alliance Maui à la Terre. Je contemplais le limbe bleu et blanc de la planète jusqu'à ce que les océans fussent en bas et que l'atmosphère nous porte. Nous approchâmes du Terminator dans un long glissement d'ailes à la vitesse de 3 fois notre propre son. Nous étions des dieux, mais même les dieux, à l'occasion, sont parfois obligés de descendre de leur piédestal. Le corps de Siri ne cessait jamais de m'étonner. Par exemple, pendant notre séjour sur l'archipel. 3 semaines dans cette énorme maison-arbre qui oscillait sous les voiles gonflées, avec les dauphins qui nous escortaient comme des éclaireurs, les couchers de soleil tropicaux qui baignaient la soirée de leur merveilleuse lumière, la voûte des étoiles la nuit, et notre propre sillage marqué par 1000 petits tourbillons phosphorescents qui reflétaient les constellations au-dessus de nous. Mais c'est surtout le corps de Siri que je me rappelle. Pour une raison ou pour une autre, peut-être par timidité ou encore à cause des années qui nous avaient séparés, elle portait les premiers jours un léger maillot de pièces qui empêchait ses seins blancs et le bas de son ventre de brunir en même temps que le reste. La première fois, le clair de lune illuminait des triangles de peau tandis que nous étions étendus dans l'herbe au-dessus du port du site numéro 1. Sa petite culotte de soie s'était accrochée à un capillaire. Il y avait alors en elle une sorte de retenue enfantine, comme une légère hésitation devant quelque chose qu'elle donnait prématurément. Mais il y avait aussi de la fierté. Cette même fierté qui, plus tard, lui avait permis de faire face à la foule furieuse des séparatistes sur les marches du consulat de l'hégémonie dans les quartiers sud de Stern et de les renvoyer honteux chez eux. Je me souviens aussi de ma 5e descente planétaire, notre 4e réunion. C'est l'une des rares fois où je l'ai vue pleurer. Elle était alors quasi royale dans sa sagesse et sa renommée. Elle avait été élue 4 fois à l'Assemblée de la Pangermie, et le Conseil de l'hégémonie la consultait souvent pour lui demander son avis sur des questions délicates. Elle portait son indépendance sur les épaules comme un manteau royal, et jamais son orgueil n'avait brillé d'un feu si ardent. Mais lorsque nous étions seuls dans la villa de pierre au sud de Fevaron, c'était elle qui baissait les yeux. J'étais nerveux. Intimidé par cette puissante femme qui m'était devenue étrangère, mais c'était Siri. Siri à la démarche droite et au regard d'acier, qui détournait la tête et murmurait à travers ses larmes «
Va-t'en, laisse-moi, Mérine. Je ne veux pas que tu me vois ainsi. Je suis une vieille femme hideuse et toute flasque. Va-t'en. »
J'avoue que j'ai été un peu brutal alors avec elle. J'ai saisi ses poignets dans ma main gauche, avec une force qui m'a surpris moi-même, et j'ai déchiré de l'autre main le devant de sa robe de soie, d'un seul mouvement. J'ai embrassé ses épaules, son cou, les traces de vergetures sur son ventre tendu, la cicatrice sur sa cuisse gauche remontant à un accident de glisseur survenu 40 de ses années plus tôt. J'ai embrassé ses cheveux gris et les rides gravées dans ses joues autrefois si lisses. J'ai embrassé ses larmes.
« Bon Dieu, Mike, tu ne vas pas me dire qu'on a le droit de faire ça ?» m'écriai-je tandis que mon copain déroulait le tapis Hawking qu'il venait de sortir de son paquetage.
Nous étions sur l'île numéro 241, comme les commerçants de l'hégémonie avaient romantiquement baptisé le rocher volcanique et désert sur lequel on avait choisi de nous envoyer passer nos permissions. L'île numéro 241 se trouvait à moins de 50 km des colonies anciennes les plus proches, mais cela n'aurait fait aucune différence pour nous si elle avait été à 50 années-lumière de là. Aucun bateau autochtone ne devait s'approcher de cette île tant que les hommes d'équipage et les poseurs d'istrance du Los Angeles étaient présents. Les colons possédaient un certain nombre de vieux glisseurs en état de marche, mais ils s'abstenaient d'un commun accord de survoler l'île. Exception faite des baraquements, de la plage et de la boutique hors taxe, il n'y avait rien sur ce rocher qui pût nous intéresser, nous autres les navigants. Plus tard, peut-être, lorsque les derniers composants auraient été incorporés par le Los Angeles au système et que la porte d'Istran serait achevée, les autorités de l'hégémonie feraient de l'île numéro 241 un centre de commerce et de tourisme. En attendant, c'était un endroit primitif avec sa grille pour les vaisseaux de descente, ses bâtiments blancs à peine finis en pierre locale et quelques agents de maintenance à l'air blasé. Mike avait demandé l'autorisation d'aller marcher sac au dos pendant 3 jours, à l'extrémité la plus escarpée et la plus inaccessible de la petite île.
« J'ai pas envie d'aller crapahuter comme un con » avais-je protesté. « Je préfère rester à bord et me brancher sur une SimSteam. »«
Ferme-la et viens avec moi. »
Tel un membre mineur du Panthéon suivant une divinité plus sage et plus ancienne, je l'avais suivi en la bouclant. 2 heures de marche ardue sur les pentes volcaniques, à travers des épineux qui s'accrochaient aux jambes, nous menèrent, comme une coulée de lave sur la rocaille, à plusieurs centaines de mètres d'altitude au-dessus des vagues bouillonnantes qui s'écrasaient sur les brisants de la côte. Nous n'étions pas loin de l'équateur, sur une planète au climat essentiellement tropical. Mais sur cette falaise exposée, le vent mugissait comme pas possible et mes dents claquaient littéralement de froid. Le soleil couchant à l'ouest était une traînée rouge sale entre des cumulus d'un noir menaçant, et j'avais peur de me retrouver en plein air lorsque la nuit descendrait pour de bon sur nous. «
Ne restons pas là, » dis-je à Mike. « Il y a trop de vent. Allons faire un bon feu. Je ne sais pas comment nous allons faire pour planter la tente sur cette rocaille. »
Mike s'assit et alluma tranquillement un joint de cannabis.
« Regarde un peu ce qu'il y a dans ton paquetage, fiston. »
J'eus un instant d'hésitation. Il avait dit cela d'une voix neutre, mais c'était le ton de quelqu'un qui vous a préparé un seau d'eau au-dessus de la porte. Je m'accroupis pour sortir les affaires du sac en nylon. Il n'était bourré de rien d'autre que des cubes d'assemblage en mousse levée. Il y avait aussi une sorte de costume d'arlequin au complet, avec masque et grelot au bout des orteils.
« Tu n'es pas... Qu'est-ce que ça... Tu es complètement dingue ou quoi ?»
La nuit tombait rapidement. Le grain allait peut-être passer au sud de l'île, mais ce n'était pas encore certain. Les vagues rugissaient au pied de la falaise comme un monstre affamé. Si j'avais été sûr de savoir retrouver mon chemin tout seul dans la nuit, je serais peut-être rentré au comptoir de commerce en laissant la carcasse de Mike au chaud nourrir les poissons qui l'attendaient en bas.
« Regarde ce qu'il y a dans mon sac maintenant, » me dit-il.
Il vida par terre quelques cubes de mousse, au milieu desquels il y avait quelques menus bijoux du genre de ceux que j'avais vus dans les boutiques d'artisanat du Vecteur Renaissance. Il sortit également un compas à inertie, un crayon laser, que la sécurité du vaisseau aurait pu facilement cataloguer comme une arme clandestine, un second costume d'arlequin, taillé pour lui, un peu plus large, et le tapis Hawking.
« Merde ! Comment est-ce que tu as fait pour passer tout ça sans te faire attraper ?»
m'exclamai-je de nouveau en caressant des doigts les motifs admirables du vieux tapis.
« Le service des douanes n'est pas très bien organisé, »
me dit Mike en souriant.
Et je doute fort que les autochtones aient un service de réglementation de la circulation aérienne.
D'accord, mais...
Ma voix se perdit tandis que je l'aidais à dérouler le tapis. Il faisait à peine plus d'un mètre de large sur 2 de long. Sa riche texture avait perdu une partie de ses couleurs avec l'âge, mais ses fils de commande étaient encore rutilants.
Où l'as-tu eu ?
Demandai-je. Est-ce qu'il marche encore ?
Sur Garden.
Me répondit Mike en fourrant mon costume avec le reste de son équipement dans son sac à dos.
« Oui, il fonctionne parfaitement. »
Cela faisait plus d'un siècle que Vladimir Cholokov, émigrant de l'ancienne Terre, maître lépidoptériste et ingénieur système EM, avait fabriqué artisanalement le premier tapis Hawking pour sa ravissante jeune nièce de la Nouvelle Terre. La légende prétendait que la nièce avait dédaigné son présent, mais le jouet avait acquis avec les années une popularité presque ridicule, pas tant auprès des enfants que des adultes fortunés, au point qu'on avait fini par les interdire sur la plupart des mondes de l'hégémonie. Trop dangereux à manipuler, provoquant un trop grand gaspillage de monofilaments blindés, pratiquement impossible à diriger dans un espace aérien contrôlé, les tapis Hawking étaient devenus des objets de curiosité réservés aux contes pour enfants, aux musées et à un petit groupe de mondes coloniaux.
« Il a dû te coûter une fortune » murmurai-je.
« 30 marks, » me dit Mike en s'installant au centre du tapis. Le vieux marchand de la place du marché de Carvenel était persuadé qu'il n'avait aucune valeur, ce qui était le cas. Pour lui, je l'ai ramené à bord, je l'ai révisé, rechargé, j'ai reprogrammé ses plaquettes inertielles. Et voilà.
Il posa la main à plat sur l'un des motifs complexes, et le tapis se raidit, puis s'éleva de 15 cm au-dessus de la roche. Je regardais d'un air peu convaincu. Je balbutiais.
Suppose qu'il.
Aucun risque, coupa Mike en tapotant impatiemment le tapis derrière lui.
Il est chargé à bloc, et je sais m'en servir. Tu vas grimper, oui ou merde? Sinon, écarte-toi. Il faut prendre l'air avant que ce grain ne se rapproche.
Mais je ne crois pas que...
Décide-toi, Meryn. Je ne vais pas t'attendre une éternité.
J'hésitais encore une seconde ou deux. Si nous nous faisions prendre en train de quitter l'île, nos contrats seraient résiliés. J'avais choisi d'être navigant et c'était toute ma vie. J'avais signé pour 8 missions sur Alliance Maui. De plus, je me trouvais maintenant à 200 années-lumière et à 5 ans et demi de voyage de la civilisation. Même à supposer qu'ils nous ramènent dans l'espace hégémonien, l'aller-retour nous aurait coûté 11 ans par rapport à nos amis et à notre famille. Le déficit de temps était irrévocable. Je grimpais derrière Mike sur le tapis en suspens. Il cala le sac à dos entre nous, me demanda de bien me cramponner et donna un coup sec sur les motifs de vol. Le tapis grimpa à 5 mètres au-dessus de la falaise, vira rapidement sur la gauche et fonça au-dessus de l'océan aux flots menaçants. 300 mètres au-dessous de nous, les vagues bouillonnaient d'une écume blanchâtre dans la pénombre grandissante. Mike prit un peu plus d'altitude et mit le cap au nord. C'est ainsi que tout un destin se joue en quelques secondes. Je me souviens d'une conversation avec Siri lors de notre deuxième réunion. C'était peu après la visite de la villa sur la côte de Fevaron. Nous nous promenions sur la plage. Alon était resté en ville sous la surveillance de Magritte. C'était aussi bien comme ça. Nous étions plus à l'aise quand le gamin n'était pas avec nous. Seule l'indéniable gravité de ses yeux gris et la troublante familiarité miroir de ses courtes boucles noires et de son nez mutin le reliaient à moi, à nous, dans mon esprit. Cela, et aussi le sourire fugace, presque sardonique, que je surprenais sur sa frimousse chaque fois que Siri le réprimandait. C'était un sourire amusé, beaucoup trop cynique et tourné vers l'intérieur pour être coutumier d'un enfant de 10 ans. Mais je connaissais bien cette mimique. J'aurais cru que ces choses-là s'acquéraient par l'apprentissage et non par hérédité.
« Tu ne sais pas grand-chose, » me dit Siri.
Elle pataugeait pieds nus dans une flaque laissée par la marée. De temps à autre, elle se baissait pour extirper du sable quelques délicates conques marines, m'inspectait à la recherche d'un défaut et la laissait retomber dans l'eau trouble. « J'ai reçu une formation poussée, » répliquai-je.
« Je sais. » Je ne doute pas que tu sois très fort dans ta spécialité, mais je dis que tu ne sais pas grand-chose.
Agacé, ne sachant quoi répondre, je continuais d'avancer sur la plage, la tête penchée en avant. Je ramassais dans le sable un galet de lave blanchi et le lançais le plus loin possible dans la mer. Des nuages gris s'amoncelaient à l'horizon, à l'est. Je me pris à penser que j'aurais préféré être à bord de mon vaisseau. J'avais hésité avant de revenir cette fois-ci, et je m'apercevais maintenant que j'avais commis une erreur. C'était ma 3e descente sur Alliance Maui et notre 2e réunion, comme on disait poétiquement chez elle. Dans 5 mois, j'aurais exactement 21 ans standard. Siri avait fêté son 37e anniversaire 3 semaines plus tôt. « Je suis allé dans un tas d'endroits que tu ne connais même pas », lui dis-je finalement. Même à mes oreilles, cela sonna ridiculement puéril.
« Bravo !»
fit Siri en battant gaiement des mains.
L'espace d'une seconde, dans son enthousiasme,
j'eus la vision de ma petite Siri, l'autre, celle dont j'avais rêvé durant les 9 longs mois de ma rotation. Puis la réalité s'imposa de nouveau à moi, et j'eus cruellement conscience de ses cheveux courts, des plis flasques de sa nuque et des cordes qui apparaissaient au dos des mains que j'avais tant aimées.
« Tu es allé dans des tas d'endroits que je ne verrai jamais, c'est vrai !»
poursuivit-elle vivement d'une voix qui n'avait pas changé ou presque.
« Tu as vu des choses, mon amour, que je ne saurais même pas imaginer. Tu connais sans doute plus de faits sur l'univers que je ne m'en doute. Mais je dis quand même que tu ne sais pas grand-chose, mon petit Mérine. Qu'est-ce que tu racontes, Siri ?»
Je m'assis sur une souche à demi enfouie à la limite du sable mouillé et dressai mes genoux comme une barrière entre nous. Elle sortit de sa flaque et vint s'accroupir devant moi. Elle me prit les deux mains dans une seule des siennes. Bien que mes doigts fussent beaucoup plus gros et osseux que les siens, je sentis la force qui se dégageait de ses mains, une force que j'imaginais être le résultat de toutes ces années où je n'avais pas été là avec elle.
« Il faut avoir vécu pour connaître vraiment les choses, mon chéri, » me dit-elle. « J'ai compris cela lorsque j'ai eu Alon. Élever un enfant, cela aide à garder le contact avec le réel. »
« Que veux-tu dire ?» Elle détourna les yeux quelques secondes, rejetant machinalement en arrière une mèche de cheveux qui tombait sur son front, tandis que sa main gauche demeurait fortement crispée sur les miennes.
« C'est pas très bien, » murmura-t-elle d'une voix faible. « Je crois que, quand les choses n'ont plus la même importance, on s'en aperçoit. Je ne sais comment exprimer cela. Quand on a passé 30 ans de sa vie à côtoyer des étrangers, on se sent moins oppressé en leur présence que lorsqu'on a la moitié de ce nombre d'années d'expérience. On sait ce qu'ils ont probablement à donner et on va le prendre directement. Et si ce que l'on cherche n'est pas là, on s'en aperçoit très vite et on passe son chemin tranquillement. C'est l'expérience des années qui fait qu'on sait à quoi s'en tenir et de combien de temps on dispose pour apprendre la différence. Tu comprends, Mérine ? Est-ce que tu me suis, même un petit peu ?
Non. Elle hocha doucement la tête en se mordant la lèvre inférieure. Mais elle ne dit plus rien pendant un bon moment. Au lieu de parler, elle se pencha sur moi pour m'embrasser. Ses lèvres étaient sèches, légèrement interrogatrices. J'eus un mouvement de recul l'espace d'une seconde. Je regardais le ciel derrière elle. J'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Mais je sentis sa langue brûlante se glisser vigoureusement dans ma bouche et je fermai les yeux. La marée montait derrière nous. La chaleur de Siri se communia à moi lorsqu'elle défit les boutons de ma chemise et me laboura la poitrine de ses ongles acérés. Il y eut entre nous une seconde de néant. Je rouvris les yeux à temps pour la voir dégrafer les premières attaches de son corsage blanc. Ses seins étaient plus amples que dans mon souvenir, plus lourds, avec des mamelons plus épais et plus foncés. Le vent froid nous mordit tous les deux, jusqu'à ce que je fasse glisser le vêtement de ses épaules pour la serrer contre moi. Nous nous laissâmes glisser sur le sable tiède contre la souche. Je l'attirai plus fort contre moi, en me demandant comment j'avais pu penser qu'elle était physiquement la plus forte. Sa peau avait un goût salé. Les mains de Siri m'aidèrent. Ses cheveux courts reposaient sur le bois blanchi, le coton blanc et le sable. Mon pouls battait plus fort que les vagues.
« Tu comprends, Mérine ?»
répéta-t-elle en chuchotant quelques secondes plus tard alors que sa chaleur formait autour de moi un fourreau qui nous reliait.
« Oui, »
soufflai-je à son oreille. Mais ce n'était pas vrai. Mike entama sa descente vers le site numéro 1 à partir de l'Est. Le vol nocturne avait duré un peu plus d'une heure, tant que j'avais passé à gémir en m'agrippant pour ne pas tomber du tapis, que je m'attendais à voir se replier d'une seconde à l'autre pour nous précipiter tous les deux dans la mer. Nous avions aperçu la première île mobile au bout d'une demi-heure de vol. Elle filait devant la tempête, ses voiles végétales gonflées. Elle fut suivie de plusieurs autres, remontant de leurs habitats du sud en une procession qui paraissait interminable. Beaucoup d'entre elles étaient brillamment illuminées, décorées de guirlandes de lanternes multicolores et de bannières de lumière diaphane et changeante.
« Tu es sûr que c'est dans cette direction ?»
hurlai-je.
« Oui !»
cria Mike sans tourner la tête. Le vent faisait voler ses longs cheveux noirs qui cinglaient mon visage. De temps à autre, Mike consultait sa boussole et corrigeait légèrement notre cap. Il aurait sans doute été plus facile de suivre les îles. Nous en dépassâmes une grande qui devait faire près d'un kilomètre de long. Je plissai les yeux pour essayer de distinguer quelque chose à sa surface, mais il faisait trop noir. Seul l'éclat phosphorescent de son sillage permettait d'en discerner les contours. Des formes noires évoluaient dans l'écume laiteuse. Je tapais sur l'épaule de Mike pour les lui montrer.
« Des dauphins !»
cria-t-il.
« C'est à ça que servait cette foutue colonie au début! Tu ne te souviens pas de la bande de Baba à l'époque de l'Égyre, qui voulait sauver tous les mammifères des océans de l'ancienne Terre? Ils n'ont pas réussi !»
J'aurais voulu lui poser une autre question, mais c'est à ce moment-là que le promontoire et la rade du site numéro 1 furent en vue. J'avais cru que les étoiles brillaient d'un éclat insurpassable au-dessus d'Alliance Maui. J'avais cru que les îles migrantes offraient un incomparable spectacle de couleurs et de lumière. Mais le site numéro 1, dans l'écrin de sa rade et de ses collines, était une balise éclatante qui trouait la nuit. L'intensité de ses lumières me rappelait un vaisseau de torche que j'avais contemplé un jour au moment où il créait sa propre nova de plasma contre le limbe sombre d'une terne géante gazeuse. La ville consistait en un énorme gâteau de miel à 5 niveaux où se dressaient des bâtiments blancs illuminés par des lanternes douces à l'intérieur et par une multitude de torches éclatantes à l'extérieur. La pierre volcanique blanche de l'île, proprement dite, semblait briller à la lumière de la ville. À l'extérieur de celle-ci se pressaient des tentes, des pavillons, des feux de camp et d'immenses bûchers qui ne pouvaient servir à rien d'autre que souhaiter la bienvenue aux îles migratrices. Le port était rempli d'embarcations de toutes sortes. Catamarans qui dansaient au gré de la houle, leurs cloches tintant en haut des mâts, péniches ventrues à fond plat, faites pour se traîner d'un port à l'autre dans les eaux équatoriales peu profondes, mais parées, cette nuit-là, de guirlandes de lumière, et même quelques yachts de haute mer au profil racé et fonctionnel comme celui d'un requin. Un phare, posé à l'extrême droite du promontoire de la rade, projetait son puissant faisceau de lumière très loin sur l'océan, illuminant aussi bien les vagues que l'intérieur de l'île, revenant caresser à intervalles réguliers les bateaux dansant au bout de leurs amarres et la foule bigarrée sans cesse en mouvement sur les quais. Le bruit montait déjà jusqu'à nous à 2 kilomètres de distance. C'était une rumeur de fête, de cris et de musique, étroitement mêlée au murmure de la mer. Je perçus quelques notes de flûte d'une sonate de Bach. Je devais apprendre plus tard qu'il s'agissait d'un concert de bienvenue transmis au moyen d'hydrophones dans le détroit où les dauphins dansaient et s'ébattaient au son de la musique. « Mon Dieu, Mike ! Comment as-tu fait pour être au courant de tout ça ? » demandai-je.
« J'ai interrogé l'ordinateur de bord principal. »
Le tapis Hawking s'inclina pour prendre son virage à droite et nous perdîmes de vue les navires et le phare. Puis le tapis se dirigea vers le nord du site numéro 1, là où régnait encore l'obscurité.
« Cette fête a lieu chaque année, » m'expliqua Mike. « Mais ils en célèbrent en ce moment le 150e anniversaire. Les réjouissances durent depuis 3 semaines et cela va continuer encore comme ça pendant 15 jours. » Il n'y a que 100 000 colons sur cette foutue planète, Mérine, mais je te parie que la moitié d'entre eux sont ici en train de rigoler. »
Il ralentit, commença prudemment son approche et se posa sur un affleurement rocheux non loin de la plage. Nous avions échappé au grain, mais l'horizon au sud était encore par intervalles illuminé d'éclairs qui rivalisaient avec les lumières des îles en mouvement. Au-dessus de nous, cependant, les étoiles n'en brillaient pas moins dans un ciel chaud et serein où la brise apportait des senteurs de vergers en fleurs. Nous repliâmes le tapis et sortîmes nos costumes d'arlequin. Je vis que Mike glissait dans ses poches le crayon laser et les bijoux. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ? » demandai-je tout en dissimulant avec lui sous un gros rocher le sac à dos et le tapis.
« Ça ? »
dit Mike en agitant sous mon nez un collier acheté sur Renaissance.
« Avec cette babiole, tu pourras peut-être obtenir quelques faveurs. »
Faveur ?
Les faveurs d'une dame, expliqua Mike. Le repos du guerrier spatial. Un petit coin pour baiser, si tu préfères. Hein ?
J'ajustais mon masque et mon bonnet. Les grelots tintèrent doucement dans l'obscurité.
Viens !
Fit Mike.
Il ne faut pas rater ça !
Je hochai gravement la tête et lui emboîtai gaillardement le pas. Nos grelots tintaient joyeusement chaque fois que nous escaladions une roche ou que nous sautions par-dessus un buisson, guidés par les lumières de la fête qui nous tendait les bras. Assis en plein soleil, j'attends. Je ne sais pas trop quoi au juste. Je sens dans mon dos la chaleur de la pierre blanche du tombeau qui monte vers moi. Le tombeau de Siri ? Il n'y a pas un seul nuage là-haut. Je lève la tête, les yeux plissés, comme si j'allais apercevoir dans l'éclat aveuglant du ciel le Los Angeles et la porte d'Istrance en cours d'achèvement. Naturellement, je ne vois rien du tout. Une partie de moi-même sait très bien qu'ils ne sont pas encore au-dessus de l'horizon. Une partie de moi sait, à la seconde près, combien de temps il reste pour que le vaisseau et la porte parviennent au zénith. Mais l'autre partie ne veut pas en entendre parler. Est-ce que c'est cela qu'il faut faire, Siri ? Le claquement brusque des oriflammes au bout de leur hampe se fait entendre tandis que le vent se lève. Je perçois, sans me retourner, la nervosité de la foule qui attend. Pour la première fois depuis ma descente planétaire, qui devait marquer notre 6e réunion, je suis rempli de chagrin. Ou plutôt non, ce n'est pas encore du chagrin, mais une sorte de tristesse qui va bientôt se transformer en douleur. Des années durant, j'ai tenu des conversations silencieuses avec Siri, formulant les questions longtemps à l'avance pour les lui poser un jour, et je prends cruellement conscience que plus jamais nous ne parlerons tranquillement ensemble. Un grand vide est en train de grandir en moi. Faut-il que j'accepte cela, Siri ? Je ne reçois aucune autre réponse que le murmure grandissant de la foule. Dans quelques minutes, ils m'enverront Donnel, mon plus jeune fils encore vivant, ou bien sa fille Lyra, avec son frère, pour me convaincre de continuer la cérémonie. Je me débarrasse de la brindille que je mâchonnais. Il y a comme une ombre à l'horizon. Ce pourrait être un nuage, ou bien la première des îles, poussée par l'instinct et les vents du nord printanier à migrer vers les hauts fonds équatoriaux d'où elles viennent toutes. Mais quelle importance ! Est-ce que c'est cela qu'il faut faire, Siri ? Toujours pas de réponse, et le temps s'amenuise.